Vous écoutez
RMC. RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brisbois.
Il est 22h19 en France, il est 16h19 ici à Manhattan où l'after s'est installé jusqu'à, on l'espère, dimanche et la victoire finale de l'équipe de France, parce que la finale ce sera ici à New York dimanche soir. Bon, vous allez me dire, il y a quand même une demi-finale à gagner avant. On en parle justement avec Franck Leboeuf, avec Maxime Chanot, avec Julien Laurence qui sont là, avec Fabrice Hawkins qui est à Dallas donc et qui suit l'équipe de France. D'ailleurs, précision que demain le match Fabrice se jouera avec stade fermé, hein. Parce que le stade à Dallas, t'es pas sous le cagnard comme Maxime Chanot là à Manhattan.
Bronzé.
Effectivement, avec un petit peu de clim. D'ailleurs, il se ferme, mais pas totalement. Il y a un petit peu de clim, donc ça va faire du bien aux joueurs parce qu'il fait vraiment très très chaud ici, avec une espèce de chaleur étouffante. Et franchement, ça va leur faire du bien et ça va nous permettre aussi d'avoir une qualité de jeu sans doute meilleure avec deux équipes qui seront un peu plus fraîches.
Benjamin est avec nous au 32-16 pour parler d'équipe de France. Benjamin, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Bon, t'as entendu les incertitudes là, notamment au milieu. Est-ce que toi, ça t'inquiète de savoir que Tchouaméni est incertain, ou tu te dis c'est pas du tout un problème, on a Koné qui est très bon?
Alors voilà, moi c'est pas un problème, parce que quand j'ai là, en attendant que je passe en tête, j'ai regardé les statistiques de Koné, et ça, ouais, il a réussi 271 passes sur 282 en 4 matchs. Donc ce qui est plutôt pas mal en termes de milieu de terrain.
Oui, en effet.
Ouais, il suffit que les passes en arrière.
Ça dépend quel genre de passe c'est.
Ouais, mais c'est comme réussi. C'est comme réussi.
Non, ça veut dire, non, encore une fois, excuse-moi de te couper, excuse-moi, c'est Franck, hein, mais si bonjour, tu, il y a des joueurs comme ça, on en connaissait, ils faisaient que des passes latérales, des passes en arrière, ils avaient 100%. Ce qui est beau avec Koné, et t'as raison de le signaler, c'est que lui, il, non, j'ai rien dit. Non, non, surtout pas. Mais surtout, je trouve que, et c'est Maxime qui le disait, à chaque fois, sa première touche, elle est exceptionnelle. Vers l'avant, c'est toujours vers l'avant, donc c'était bien de le faire remarquer.
Oui, donc la stat, elle vaut quand même.
La stat, elle vaut dans ce cas-là.
Oui, la stat, elle vaut plus pour Rabiot, pour le coup.
Il a gagné 15 ballons en 4 matchs. Moi, c'est un joueur que je connaissais peu. Et quand je l'ai vu contre le Maroc, il m'a impressionné. Parce qu'il a ratissé des ballons. Il a joué de l'épaule. Il a été un peu au milieu box-to-box. Il a aussi bien de l'avant. Il revenait en défense pour rassurer ses défenseurs. Et quand on voit le stade et quand on voit l'assurance qu'il donnait sur le terrain, un Tchouaméni qui est blessé, qui n'est pas dans le rythme, qui n'est peut-être pas forcément non plus possible de jouer sous des chaleurs comme il y a en ce moment, moi, ça ne me dérange pas de garder Koné. Parce que jusqu'à maintenant, ça marche. Pourquoi changer?
Ouais, non, mais on est d'accord avec toi, hein. Enfin, en tout cas, on en a discuté un peu plus tôt. Moi, ce que j'ai aimé par rapport à Koné, qui a vraiment été le meilleur français, hein. Je ne sais pas si vous pouvez me contredire si je me trompe contre le Maroc, ça a vraiment été le meilleur. On a tendance à toujours penser que Koné, c'est, je l'ai dit un peu plus tôt, le milieu relayeur qui est en mesure de pouvoir faire les transitions offensives, d'aller très vite vers l'avant. Mais il ne faut pas oublier, contre le Maroc, le nombre de ballons qu'il a ratissé, le nombre de duels qu'il a gagnés, c'était incroyable. C'était le meilleur, c'était le meilleur défensivement. Donc il faut arrêter de penser que Koné ne sait uniquement attaquer avec le ballon et qu'il a des lacunes défensivement. Je trouve que ce n'est pas le cas, il nous l'a montré. Et surtout, je rappelle par rapport à Rabiot, on a critiqué Rabiot justement pour son manque d'allant vers l'avant. On parlait des passes réussies. Ouais. Hey, Rabiot, tu me parles, Franck, de mecs qui assurent leurs passes. S'il a tendance quand même à jouer très très simple. Et donc le fait d'avoir un Koné à côté de lui, je trouve que ça le décharge un petit peu de ce travail. C'est pas forcément le cas quand c'est un Tchouaméni qui est à côté, parce qu'on l'a dit un peu plus tôt, mais Tchouaméni qui a un poste un peu plus défensif. Et ça oblige donc Rabiot à faire ces efforts-là. Et je trouve que dans ce contexte-là, c'est pas le meilleur.
Et moi, Benjamin, sur Barcola ou Doué, ton avis?
Moi là, plus sur Doué. Doué, je pense que... Alors, parce que Doué, il a rentré, il a marqué, il a provoqué. Mais pour moi, Doué, il a l'avance par rapport à Barcola. Je pense qu'il est vraiment sur une bonne phase. Et je pense qu'il est plus intéressant de Doué que par rapport à Barcola. Mais moi, ce que je voulais venir, c'est que... J'en parlais tout à l'heure avec le Standard. C'est que je pense qu'on n'a pas encore eu le but de notre défense. Vous savez, on a eu Thuram en 98, on a eu Titi. Et on n'a pas encore eu le match où c'est la défense qui nous fait gagner le match. Sur un coup franc, sur un corner.
Tu nous dis que Coupa Mécano marque sur corner demain?
Et voilà, blanc, on contre Paraguay.
On n'est pas très bon, c'est coupé arrêté malheureusement.
Ouais. Mais on en parlait tout à l'heure. Et moi, je pense qu'il nous manque ce match où c'est pas un Pavard qui nous marque une frappe de loin. Il nous manque ce match où c'est compliqué, on n'y arrive pas. Et derrière, la défense, ils arrivent, ils mettent un gros coup de tronche et ça finit dans la lucarne. Et on gagne peut-être 1-0. Mais c'est les défenseurs qui nous font gagner. Et ce match-là, il nous manque aujourd'hui dans la Coupe du Monde. Et je pense que demain, ça peut être ce match où on parle de Yamal, on parle d'Embélé, on parle des offensifs, mais on ne parle pas beaucoup de la défense, dans le sens, ils vont monter et ils vont montrer qu'ils existent. Et moi, je pense que
c'est
ce
amusant parce que.
Je veux dire un but à la Franck Leboeuf contre Nantes pour arrêter l'invincibilité.
Voilà, à peu près ça, mais
de la tête.
Personne s'en rappelle. Mais non, mais Sergio Ramos était fidèle à ça, où on a, quand les matchs avec le Real Madrid ou l'Espagne, où ils n'arrivent pas à gagner. Et Sergio Ramos mettait son
tronche dans la tête. Hein,
voilà. On a eu le débat avec Sam Umtiti et Rafa Varane d'ailleurs, hein, ouais. qui avait fait gagner l'équipe de France en 2018. Exactement. C'est vrai, c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui à Upamecano et Saliba. Bon, alors pour l'instant, ils n'ont pas le besoin. Hein. L'équipe de France marque sans eux.
Surtout qu'ils fassent leur boulot d'abord. Voilà. Ils font vraiment bien leur boulot.
En tout cas, peut-être la différence, si cette paire de défenses centraux veut vraiment devenir les meilleurs, c'est peut-être justement être décisif sur certains matchs. Ça sera peut-être le cas contre l'Espagne. Mais bon, je m'attends à avoir quand même des buts de la part du quatuor offensif. Parce que quand tu vois un petit peu l'armada qu'on a devant.
On va en parler. Justement, c'est intéressant, Fabrice. Donc, tu es rentré un peu dans les coulisses des Bleus, là. Et on retrouve ça sur rmcsport.fr. Une enquête qui raconte comment une discussion, donc après l'Euro 2024, a fait changer Deschamps dans sa façon de voir les choses offensivement. Raconte-nous.
Oui, parce qu'il avait déjà des petits doutes aussi forcément au sortir de l'Euro 2024, qui s'est pas bien passé. Vous vous souvenez avec Olivier
Giroud. C'est l'Espagne qui nous a éliminés, je le rappelle.
En demi-finale, bien entendu. Et donc, suite à cette élimination, il y a eu une remise en question. Et juste avant le match de Ligue des Nations contre la Belgique, c'était à Lyon, souvenez-vous, le 9 septembre. Donc la veille de ce match, le 8 septembre, il y a une discussion qui s'est tenue dans le vestiaire de Lyon, donc autour de Didier Deschamps, où il a convoqué tous les joueurs. Discussion à huis clos, parce que, et ça c'est assez rare quand même, tout le staff est sorti. C'était vraiment Didier Deschamps et ses joueurs, pas une personne de plus, pour éviter notamment les fuites. Et d'ailleurs, on s'est posé beaucoup de questions, parce que à l'époque, simplement pour vous donner la coulisse,
il y avait un entraînement. Surprenant. Ouais.
Mais il y a un entraînement qui devait se tenir et en fait, il a été repoussé. On attendait, nous journalistes, et les minutes passaient, les minutes défilaient, on comprenait pas pourquoi l'entraînement prenait du retard. Et en fait, il y avait bien cette réunion qui avait lieu au même moment où, en gros, les joueurs ont parlé à Didier Deschamps de manière assez direct, assez franche aussi. C'est Kylian Mbappé qui s'est chargé retranscrire la parole du groupe en expliquant qu'il y avait des choses qui s'étaient mal passées, qui comprenaient pas toujours certaines consignes, notamment lors du match France-Espagne, donc la demi-finale perdue, qu'ils avaient l'impression d'être parfois perdus, que l'Espagne avait vraiment le dessus et que il manquait de clés surtout. Et le message fort en fait derrière tout ça, c'était si on continue comme ça, l'objectif final, qui était l'objectif de tout le monde déjà à l'époque, c'était la Coupe du Monde. Et eux disaient, on n'y arrivera pas comme ça, il faut vraiment qu'on change des choses. Et Didier Deschamps a entendu ce message. Bien évidemment, il avait déjà repéré qu'un certain nombre de choses n'allaient pas. Et ça a permis comme ça de construire, année après année, jusqu'à cette Coupe du Monde, l'équipe de France telle qu'elle est construite aujourd'hui, donc avec quatre offensifs.
Tu peux me dire ce que tu
Attention,
veux.
Attention, il n'y avait pas Olysée à l'époque. Hein.
Exact, c'est exactement ce que je veux dire. Tu peux me dire ce que tu veux, des changements, etc. Olysée, c'est un don des dieux du football.
Ouais.
Et ça arrive, ça lui arrive sur une les Anglais disent on a plate, mais...
Sur un plateau
doré,
un plateau, tout ce que tu
veux. C'est ça. Et pour moi, c'est ça qui change tout. Alors oui, la discussion, Fabrice, on était ensemble en Allemagne, il y avait des joueurs qui étaient déjà pas contents, même à la fin, même avant l'élimination contre l'Espagne, déjà dans la façon de jouer, dans certains entraînements, dans certains côtés très tactiques de Deschamps, là pour le cas vraiment conservateur et vraiment très à l'italienne, on va dire. Mais après Olysée, il change tout. Olysée, il change absolument tout, parce que je sais pas qui aurait joué dans cette position de 10.
Qui aurait joué 10, surtout que je parle de quelque chose qui était très important aussi, c'est le match contre la Croatie l'année dernière.
Olysée
en numéro 10, il marque le coup franc, il anime le jeu, et là il se rend compte aussi qu'Olysée, qui joue à droite, notamment en Crystal Palace et par la suite au Bayern Munich, il se rend compte que finalement son poste, là où il peut magnifier cette équipe de France, c'est dans ce rôle de numéro 10. Donc il y a eu plusieurs temps, c'est pas seulement la réunion, il y a eu ce temps-là, il y a eu ce match-là contre la Croatie très importante qui a révélé Michael Olysée en numéro 10, et puis il y a eu ce match de Ligue des Nations de cette demi-finale aussi perdue contre l'Espagne 5-4, où le staff s'est dit, ok, on a perdu ce match-là contre l'Espagne, mais ce qu'on retient quand même, c'est que ça marche mieux quand on joue avec 4 offensifs, plutôt que dans un 4-3-3 classique avec 3 milieux à vocation, 3 milieux de formation.
Tu peux me rappeler la discussion, elle a lieu quand ?
Elle a eu vraiment dans la foulée en septembre donc, 2024. C'est vraiment dans la foulée de l'Euro.
Septembre, octobre 2024. Parce qu'en fait, moi, je me souviens du changement de Didier Deschamps. Ouais, d'accord. Ouais, ça part par là. Parce que le changement de Didier Deschamps, il y a donc ce match aller-retour où est-ce que la France perd 2-0 contre la Croatie. Et c'est sur le match retour qui change. Mmh. Et c'est à ce moment-là que la France gagne 2-0, gagne au pénalty, se qualifie pour le dernier carré de la Ligue des Nations. En fait, ce mouvement, en fait, il arrive à ce moment-là. Il fait rentrer Olysée. Et c'est le début de l'histoire. Mais c'est intéressant. Donc, en fait, il lui a fallu de septembre jusqu'à mars et une défaite contre la Croatie pour vraiment mettre ça en place alors qu'il avait les forces quand même en présence.
Après, mais moi je vais être honnête, aussi, Max, ce qu'il faut dire aussi c'est qu'il y a pas mal de souvenez-vous juste après l'Euro le nombre de rassemblements où il a pas Kylian Mbappé, où il a pas Ousmane Dembélé, où l'un est blessé, monde, l'autre il y a quelques soucis avec les clubs, donc il y a eu ce temps d'adaptation aussi.
Okay, ouais,
moi j'étais convaincu qu'il allait repasser au 4-3-3 là maintenant. Demi-finale,
la première grosse équipe.
Voilà, moi j'étais convaincu qu'on aurait un Tchouaméni, Koné, Rabiot au milieu de terrain et que on mettrait tout sur le banc et qu'il entrerait en
Moi je m'attendais à ça parce que c'est légal pour te dire la vérité.
Ouais, mais moi, c'est pas aussitôt, mais je me suis dit à un moment il va revenir un peu comme Aimé l'avait fait.
Ouais, c'est vrai. Mais vu ce que tu as comme dispositif avec les 4 devant, enfin, ça aurait été suicidaire. Enfin, au niveau médiatique, ça aurait été suicidaire.
T'as quatre... Là, c'est de l'anti. C'est quoi? Tu vas contre le foot, en fait, parce que t'as les mecs qui sont là, c'est aurait été aberrant.
T'as quatre joyaux et tu peux rajouter Barcola et Cherki en plus, tu vois. Donc, pourquoi t'en priver? Enfin, c'est quand même. On n'a jamais eu ça. Enfin, on a eu des grands joueurs, mais tous au même temps, à 100%. Mais faudrait être fou pour pas s'en servir. Enfin, tout le monde en a peur. Tout le monde dit ok, on va attaquer. Vrai, les Espagnols disent on va y aller. Bah ouais, t'y vas, mais tu regardes derrière parce que si t'y vas trop vite, tu vas prendre un retour.
Bon, Fabrice, ton enquête est sur rmcsport.fr. Merci en tout cas pour toutes les infos. Et
avec
demain.
Avec plaisir.
On va trouver ton jingle
avec
là.
Demain.
T'as ton charme de cowboy aussi ou pas encore?
Et la perruque de JR.
Pour les plus jeunes, ils ne savent pas de quoi on parle en fait. C'est quoi ce truc? C'est quoi leur délire?
Tu sais que j'ai revu tous les épisodes de Dallas il n'y a pas longtemps.
T'es si vieux que ça, Franck?
Moi je suis vieux, ouais.
Tu te fais du mal à toi-même.
Je te rappelle que on était tous là. Qui a tiré sur JR quand même? C'est quand même un truc extraordinaire.
Fabrice, si vous voulez nous dire un dernier truc, je crois, avant de partir.
Ouais, c'est le dernier, dernière petite coulisse là, sur l'entraînement qui a eu lieu. Bah, on n'est pas vraiment plus avancé parce que Tchouaméni et Koné ont joué une mi-temps de l'opposition. Bradley Barcola et Désiré Doué aussi. Donc le flou reste intégral.
C'est Didier, il est trop fort quand même. Donc,
est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même vraiment 13 titulaires dans cette équipe de France?
On peut.
Ah ouais, avec Gucci,
parce qu'un tu regardes.
Et Doué, c'est ça que tu
veux. Ouais, et on joue à 13 alors, j'ai envie de dire.
On aurait pu dire 14 avec Théo Hernandez.
Reprendre un titre célèbre.
Ouais, un peu moins.
On joue avec 26 titulaires en fait.
Merci Fabrice, bonne soirée. Autre info qui moi me ravit, l'équipe de France va jouer en bleu blanc rouge demain. Moi j'aime bien quand c'est
Moi j'ai regretté que le jour du 4 juillet quand ils ont joué, on a créé un maillot bleu avec pour expliquer la statue de la liberté, tout ça, le Bartholdi et tout, et je trouve
ça c'est le vert ça.
Mais pourquoi ils ont pas joué ce jour-là du 4 juillet avec ce maillot-là? J'ai été super déçu en fait.
Oui, c'est vrai.
Ça a été fait exprès pour cette Coupe du Monde. Le 4 juillet, on a un match et tu joues avec le maillot bleu. Bah, j'ai pas compris. Bon, vas-y, continue.
Là, demain, c'est bleu.
C'est bien.
Et la minute de silence aussi pour les victimes de Nice il y a 10 ans maintenant. C'est très bien aussi.
D'ailleurs, même Emmanuel Macron s'est félicité et a remercié Gianni Infantino. Il a pas dit I call Gianni. Il aurait pu.
Because I know football.
Tu sais qu'on a lancé un t-shirt I call Gianni, ça cartonne.
On
aurait pu faire le t-shirt de Macron maintenant.
Ça restera, c'est pour l'éternité.
C'est pour l'éternité du ridicule.
Malheureusement.
C'est comme ça. Et puis alors, l'arbitre demain. Il s'appelle Ivan Barton, aucun lien avec l'ancien joueur de l'OM, je précise. N'y voyez pas une quelconque malice. Il est salvadorien. Et alors, c'est lui qui avait exclu le joueur paraguayen qui a mis la main devant la bouche, là.
Almiron.
Almiron, la fameuse nouvelle règle.
Très bien.
Donc, demain, du coup, faudra faire gaffe.
Si tu dois dire quelque chose, tu te caches pas la bouche, quoi.
Voilà.
Le problème, c'est que les joueurs, ils ont l'habitude de faire ça, même pour parler entre eux. Moi, ils le font.
Je trouve ça fou, ces problèmes d'haleine dans le football, quand même.
Il y a vraiment problème.
Il y a un vrai problème d'aller.
Une petite listerine, on en trouve pas mal ici. Et là, ça passe facile.